Une fois qu'on a dit qu'il faut respecter les droits des patients, mais aussi limiter la contagion du Covid, ben on n'a rien dit quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on s'adapte.
Parce qu'en fait, même si on a la blouse blanche et qu'on se dit il faut qu'on garde cette barrière, en fait, la mort, on ne revient pas dessus. Ça veut dire que c'est très... On est obligé à un moment donné de se mettre à la place de l'autre.
Faut rentrer chez soi et se dire je l'ai empêché de voir sa mère, je l'ai empêché de voir son enfant. Et ça, il n'y a que nous qui vivons avec ça après.
Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là quoi ? On n'avait pas le choix, on a fait ce qu'on a pu, mais il faut pouvoir dire ce qu'on a fait quoi. Il faut pouvoir le dire.
La traversée.
Épisode 4, transgresser.
La contagion et sa peur contaminent tout, jusqu'au plus vital, le lien. L'hôpital, au nom de la protection, restreint les visites, empêche d'accompagner celui ou celle qui va mourir, défend de toucher les malades. Nouvelle règle, dans l'urgence de sauvegarder des vies, contre les principes élémentaires de ce qui fonde l'humanité. En tant que soignant, que faire ?
On a eu notre premier décès qui était catastrophique. En fait, bah, du coup, il y avait des malades partout, des médecins dans tous les étages en train de gérer tout ce qu'on pouvait gérer. Et il y a une dame qui était vraiment jeune. C'était une situation dépassée et la dame est décédée. Et donc une de mes collègues a appelé au téléphone pour annoncer le décès et ça a été accueilli par des hurlements, de l'incompréhension. Les visites étaient à ce moment-là strictement interdites et puis en fait on a vu toute la famille arriver et exiger de voir le corps, sauf que bah, du coup au tout début de vague c'était obligatoire que le corps soit mis dans une housse hermétique fermée et une fois qu'elle est fermée on a interdiction de la rouvrir. Et donc, en fait, la dame, on ne savait pas que la famille arrivait puisque c'était interdit. Et puis, du coup, la housse avait déjà été fermée. Et en fait, moi, je n'ai pas assisté à la scène, mais tout le monde m'a raconté que c'était horrible. Tout le monde criait, les gens refusaient de croire qu'elle était morte. On n'avait pas le droit d'ouvrir la housse. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Et en fait, à partir de ce premier décès, on a dit, en fait, c'est pas possible. On ne va pas pouvoir faire ça. Et donc, on a appelé de façon très informelle les collègues qui travaillaient à Bichat ou à La Pitié pour dire, bah, en fait, comment vous faites, vous, d'habitude ? Parce que nous, on nous dit qu'il n'y a pas le droit, mais là, nous, on a eu un truc, c'était infernal. Et donc, ils nous ont dit, alors je ne me rappelle plus ce qu'ils faisaient, si c'était une ou deux personnes. Et c'était effectivement contre les règles en vigueur à ce moment-là.
En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne connaissait pas bien la pathologie. On ne savait pas à quel point ça allait être mortel, en fait, et surtout à quelle échelle. Donc, par précaution, quelque part, beaucoup d'hôpitaux ont fermé, ont fermé leurs portes aux visites. Et finalement, nous, on s'est posé la question de les garder ou pas.
Lucille Montagnier, donc, j'étais directrice contractuelle à l'hôpital de Saint-Denis, spécialisée sur les affaires juridiques et droits des patients, donc en gros, tout le volet relations usagers. Je suis restée environ 4 ans sur le poste à Saint-Denis, fin 2018 à 2022. C'était mon deuxième poste, très exactement.
En gros, le sujet, c'était de limiter la propagation du virus, comme on le pouvait. Et puis après, il y avait des recommandations un peu sur tous les sujets. Souvent, ça prenait la forme de recommandations écrites, en fait. Mais finalement, c'était pas très précis. puisqu'en fait, ils avaient aussi, quelque part, bien conscience qu'il fallait qu'on adapte à la situation de chaque établissement. Oui, il y a des règles, il y a évidemment, au niveau juridique, un certain nombre de... C'est tous les droits des patients, en fait, finalement, qui s'appliquent là. Ils n'ont rien inventé, en fait, hein, quand ils nous font des messages d'alerte rapide sanitaire, des recommandations, etc. Mais là où c'est compliqué, c'est que, en parallèle, il faut respecter les droits, mais aussi limiter, en fait, la contagion. Finalement, les deux sont totalement contradictoires. On était un peu tous en état de survie, quoi. Finalement, très concrètement, on a aussi beaucoup utilisé notre bon sens, quoi. Il a fallu qu'on ferme, sauf qu'il y a eu un moment de transition. Et donc, on s'est retrouvé en fait, peut-être... je pense que ça devait être le premier jour de limitation de visite, avec une agression, en fait, de nos personnels positionnés pour sécuriser les entrées. On avait des personnes qui ne comprenaient pas, puisque les jours d'avant, ils étaient venus. Enfin, ils voulaient voir, en fait, leurs proches. Potentiellement aussi, c'était les derniers jours de la personne. Ça, c'était un gros sujet aussi. Est-ce que la personne est en fin de vie ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire, la fin de vie? À partir de quand on accepte que la famille vienne tout le temps, en fait? Puisque, évidemment, on ne va pas priver une famille de voir son proche sur ses derniers jours. On a essayé d'expliquer au mieux, en fait, à la population et aux proches, en fait, pourquoi on limitait les visites, mais parfois c'était intolérable pour eux.
Je me suis beaucoup battue au niveau de l'institution et pour une part... on a été tout à fait écoutés, notamment au niveau de la direction, sur la nécessité d'aménager. Quand il commence à y avoir les premiers malades Covid, on voit un peu, on commence à prendre la mesure. Moi, je sais que j'ai été voir mon chef de service qui était débordé. Et d'emblée, moi, j'étais très inquiète. Et je lui ai demandé qu'on se voit juste 5 minutes, parce que vraiment, c'était vraiment la panique. Et je lui ai dit, est-ce que les gens vont pouvoir rentrer? J'ai besoin de savoir ça. Est-ce qu'on va laisser rentrer les proches?
Ça a été l'élément déclencheur de... En fait, maintenant, quand les gens vont mourir, on appelle les familles et on dit qu'il y en a deux qui doivent venir pour voir le corps ou le patient juste avant qu'il décède.
Ça a été une négociation aussi qui était entre nous et les professionnels. Parce que, pour certains, il était essentiel vraiment de garder les visites ouvertes parce qu'ils considéraient que ça faisait partie du soin. Et pour d'autres, il fallait appliquer un principe de précaution. Et aussi, c'est vrai qu'il pouvait avoir une surcharge de travail. Et donc, pour eux, il fallait absolument limiter les visites. S'ajoute à ça d'autres considérations. Donc l'équipe sécurité qui souhaitait aussi un peu limiter les allées et venues au sein de l'hôpital. Donc en fait, il y avait un certain nombre d'intérêts qui se contradisaient. Donc en fait, nous, à la fin, on avait un dispositif qui était le plus homogène possible, en sachant que pour ceux qui voulaient faire plus favorable, on savait qu'ils allaient le faire et on les laissait. En revanche, ce qu'on ne voulait pas, c'est aller dans le moins favorable. Donc on essayait de fixer en fait une limite sur les restrictions.
Au bout de combien de temps il y a eu ces deux personnes qui ont pu venir par patient?
Moi, je dirais une semaine, mais j'ai l'impression que des collègues pensent que c'est plus rapide.
Je pense que en fait, avant que ce soit mis en place de façon officielle, il y a eu des gens qui sont rentrés, notamment, voilà, ça vient reprendre un peu cette question de la transgression. C'est-à-dire que ce qui était dit, c'était qu'il n'y avait pas le droit. Et puis, sur un étage la nuit ou à un autre moment dans une situation particulière, on sait. On ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas en faire des statistiques. On sait qu'il y a des gens qui ont permis que des choses se passent, que des gens rentrent, qu'ont transgressé les règles. Mais ce qui est sûr, c'est que très rapidement, ça a été possible de dire qu'il fallait trouver des aménagements.
Disons qu'en fait, au début de la crise, tout le monde acceptait en fait les contraintes. Je pense que c'était la même chose pour la population. Mais en fait, au fil des mois, en fait, c'est devenu inacceptable. Il y a un retour de bâton après. Et on a un bon exemple sur la prise en charge des personnes décédées. Il y avait toute une phase, quelque part, de désinfection. Et en fait, quand on a su qu'on entendait plus de données médicales sur la pathologie, il a été question, justement, de revoir les recommandations. Et donc, je me souviens très bien avoir eu l'Agence régionale de santé au téléphone. Les syndicats des pompes funèbres ont dit qu'ils n'acceptaient pas les nouvelles recommandations. C'était une mise en danger, en fait, des professionnels. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a remonté ça au ministère, donc via l'Agence régionale de santé, et on leur a dit « mais vous ne pouvez pas faire ça, parce qu'en fait, si vous faites ça, nous, demain, on n'a plus personne pour gérer les décès. Et en fait, ce n'est pas possible, puisque nos chambres mortuaires sont pleines. Et même, on était à avoir des camions réfrigérés. Enfin, c'était des agents qui travaillaient énormément à ce moment-là. Et ils n'ont pas fait passer la recommandation pour qu'on puisse continuer à fonctionner. En fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, l'organisation, l'institution, le système de santé n'est pas prêt. C'est beaucoup plus simple, finalement, de durcir les règles, de prendre des mesures restrictives, quelque part, sans débat. Enfin, moi, ça aurait été très simple pour moi de dire « on enlève les visites ». C'est beaucoup plus simple de faire ça que de chercher la nuance, que d'avoir des mesures adaptées, qui soient les plus souples possibles, on va dire. Et une fois qu'on a pris des mesures restrictives, pour revenir en arrière, c'est long.
Quand c'est un peu tout et n'importe quoi, est-ce qu'on transgresse vraiment quelque chose ? Quand on ne sait pas où on met les pieds, est-ce qu'on transgresse vraiment quelque chose ? C'est ça la question. C'est que comme je vous dis, tout le paradoxe est là. C'est qu'on doit interdire à des gens de faire des choses qu'on aimerait soi-même faire, si on était à leur place. Alors, Colin Stéphane, employé de chambre mortuaire, enfin, référent de la chambre mortuaire de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et je travaille à l'hôpital depuis septembre 2014. Je pense que, par moments, on était tellement livrés à nous-mêmes que les gens ont fait ce qu'ils pouvaient pour soulager les gens qui étaient en face d'eux, pour soulager parfois leur propre conscience. Parce que ceux qui nous disent de l'interdire ne sont pas face à ces gens-là à ce moment-là. Il faut rentrer chez soi et se dire... Je l'ai empêché de voir sa mère, je l'ai empêché de voir son enfant. Et ça, il n'y a que nous qui vivons avec ça après.
Donc on n'a eu qu'une certitude, en fait.
Et en plus, voilà, la preuve, on l'a vu par la suite. Hein. La maladie n'a pas changé, et pourtant on a permis les visites, on a permis tout le reste. Donc dans le fond, en vrai, ça aurait pu être possible à ce moment-là, mais on ne l'a pas fait. Et je comprends par mesure de précaution. Mais au final, même les gens qui ont transgressé ça, ont-ils vraiment fait quelque chose de si grave que ça ? On est avant tout des métiers de service, on est avant tout un métier de public, on est avant tout un métier qui est tourné vers les autres. Et d'un seul coup, on nous demande de plus penser aux autres, d'appliquer mécaniquement quelque chose. C'est pas la vocation de l'hôpital public, je pense pas.
C'est pas qu'on a transgressé, c'est que de toute façon, on n'avait pas le choix. On ne nous a pas donné le choix, on nous a dit les fermes sont interdites, nous on ne peut pas faire autrement. Puis je vous avouerai que c'était une période au début où on n'avait pas le temps de réfléchir, quoi. On fait ce qu'on a à faire, on soigne nos patients et c'est triste parce que voilà, on n'a pas le retour des familles, mais on n'avait pas le choix surtout. Et c'est après, au bout de 15 jours, on s'est dit, attends, il manque quelque chose quand même. Il manque des gens, il manque des familles, il manque de l'accompagnement. Là, je pense qu'on a tous réfléchi, se dire, oui, bah, pourquoi les familles ne pourraient pas rentrer? Il faut juste que respecter certaines règles d'hygiène et bien surveiller que ça soit bien fait surtout.
C'est ma cadre qui est actuellement à la retraite, hein, donc voilà, je pense que je ne trahis rien, qui avait réouvert une fois une housse pour aller chercher l'alliance pour un mari ou pour une femme, je ne sais plus, qui voulait à tout prix récupérer l'alliance, ce qu'on peut comprendre, et là, elle avait transgressé en allant chercher l'alliance. Après, elle était cadre, et en même temps, bon là, c'est quand même... c'était une alliance, donc peut-être que si le cas s'était présenté chez nous, on aurait fait la même chose, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc nous, ça ne nous est pas arrivé sur la première vague. Sur la deuxième vague, alors voilà, il y avait des temps et des protocoles installés, des fois ça devait être 5 minutes à 1 mètre de distance. On va être honnête que si une fois que la housse était ouverte, l'enfant voulait embrasser sa mère ou son père, on n'allait pas lui sauter dessus pour l'interdire de le faire.
Vous restiez dans la salle, vous, à ce moment-là ?
C'était en extérieur. Donc, on restait aux alentours quand même, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop de contacts non plus. Puisque malheureusement, la vie étant comme ça, hein, parfois on fait les choses pour arranger les gens, et quand quelque chose leur arrive derrière, ils reprochent aux mêmes gens qui ont fait l'effort pour les arranger d'être responsables de ce qui leur est arrivé. Donc on essayait de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de contact, mais comme je vous dis, moi je suis agent hospitalier, je ne suis pas policier. Après, je suis aussi partisan du fait qu'on est tous adultes et qu'on prend les risques qu'on a envie de prendre.
Parce qu'en fait, même si on a la blouse blanche et qu'on se dit il faut qu'on garde cette barrière, en fait, la mort, on ne revient pas dessus. Ça veut dire que c'est très... On est obligé à un moment donné de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que moi, quand je voyais cette maman mourir et que ses enfants ne pouvaient pas la voir et qu'on se disait, bah ouais, mais elle va aller en mort, mais en fait, elle ne la reverra pas, c'est super compliqué. Hein. Émotionnellement, vous êtes emmené avec les gens. C'est terrible. Mais comme on ne les voyait pas, les familles à ce moment-là, on se disait clairement, putain de merde, fais chier, quoi. C'est-à-dire, ils ne vont jamais la revoir. C'est pas possible. Ils ne sauront pas si elle est décédée, crispée, angoissée, pas bien, ou au contraire, si elle était très calme, très apaisée. Mais après, quand les visites ont commencé un peu, je pense que c'est là où notre loi morale elle est venue en jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on autorisait plus de monde, plus de... En fait, il fallait survivre à ça, derrière, je pense. Donc, notre seule force à nous, c'était de se dire, OK, il y a la loi, on en sait un peu plus, peut-être qu'on se rassurait, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'on en sachait plus. Mais voilà, on habillait les gens, on leur donnait des masques, des blouses pour les protéger eux, mais on leur autorisait à plusieurs à dire au revoir à quelqu'un. Ce n'était pas possible. En fait, il fallait que ça s'arrête. Donc, en fait, ouais, en tout cas, moi, pour ma part, on a fait rentrer plus de monde qu'on aurait eu le droit de le faire. Ça, c'est sûr. Par exemple, pareil, on n'aurait pas fait rentrer un enfant. C'était beaucoup de risques. Par contre, on s'est vu faire rentrer ouais, le fils, la belle-fille, le beau-fils, qui a compté pour un, et se dire franchement, au diable, quoi. Allez, advienne ce qu'adviendra. Nous, on les protège au maximum. Ils ont leur masque. Pourtant, on en manquait hein, de masques. Eh bien, tant pis, ils ont leur masque. Et puis, il n'y a même pas que la religion, la culture. Je pense que dans la mort, même celui qui ne croit en rien et celui qui n'a pas une culture particulière, il a envie d'être là à ce moment-là. On ne revient pas sur la mort. C'est le seul moment de la vie où on ne peut pas faire marche arrière. En tout cas, à un moment, on s'est dit au diable et on y va. Et je vous dis, moi, j'ai eu une équipe au top. Hein. Là-dessus, franchement, on ne dira pas nos noms, mais c'était... Mais du coup, c'est des bons souvenirs, ça aussi, de se dire... Et puis voilà, c'est un peu cette satisfaction, à un moment donné, quand on rentre chez soi et on se dit... Voilà, au moins, ils se sont dit au revoir, quoi. Une dernière photo, un dernier... Et puis voilà, je pense qu'ils rentraient, ils étaient mieux. Et le patient, il était aussi apaisé. Hein. Il mourait moins fermé, moins... Voilà, il y a la loi et il y a nous, quoi. Mais c'est aussi ça, l'hôpital.
Non, je sais.
Vas-y, je pense. Alors, regarde, peut-être que déjà, je peux vous relire ce qu'on avait, le compte-rendu de la rue.
Mon vécu de transgression, il était surtout dans le fait de devoir justement rappeler des règles ouais. que je trouvais être des règles problématiques. Notamment dans le fait qu'il faille rappeler aux gens qu'ils pouvaient venir qu'à deux, devoir rappeler le fait que le temps de la visite allait bientôt être terminé. D'une certaine façon, mon expérience de la transgression, elle était à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression à ce moment-là de transgresser ma fonction de psychologue et ma fonction de soignante. Que ce soit en réanimation ou dans l'hôpital avec l'équipe mobile de soutien, on a essayé d'organiser une transgression admise et reconnue. J'ai eu l'impression d'être beaucoup dans la négociation pour pouvoir justement à chaque fois essayer d'étirer un peu les règles pour que peut-être il y ait plus de personnes de façon exceptionnelle qui puissent rentrer ou pour que ce soit pas tout le temps les mêmes, qu'on puisse justement par exemple faire entendre des prières avec voilà, mon propre téléphone.
Ça, c'était pas interdit a priori de faire entendre une prière?
Non, c'est pas interdit. Maintenant, c'est pas un soignant de en tant qu'individu, venir mettre en place un accompagnement religieux en tant que tel.
Excuse-moi, je t'interromps. Ça, c'était fait à la demande d'une famille, l'histoire là des prières que tu as mis. Parce que justement, je trouve intéressant, peut-être rebondir sur quelque chose. J'ai un peu l'impression qu'en tout cas, sur la première vague, il y a une espèce de sidération tellement générale que ce type de demande... On se serait attendu qu'il y en ait plus, en fait, qu'il y ait plus de rébellion à ces règles, parce que c'était des règles très violentes. Et je crois qu'il n'y en a pas eu tant que ça, parce que je crois que les gens étaient sidérés, étaient très angoissés. Et je pense qu'au début, c'était vraiment une énorme peur de la contamination personnelle. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Ils sont restés avec une crainte de cette contamination qui était beaucoup plus forte que les personnes qui étaient à l'intérieur et qui vivaient les choses de l'intérieur, ce qui n'est pas étonnant, parce que quand on voit les choses avec nos propres yeux, eh ben on peut faire un cheminer d'une façon différente quand on est à la maison confinée avec BFM qui nous rappelle le décompte de mort toutes les 5 minutes. Et je pense que ça, c'était très prégnant et que, du coup, c'était la voix des familles, mais c'était surtout un besoin, je pense, des soignants de pouvoir ouvrir pour rendre tout ça plus humain, plus acceptable, moins mortifère. Plus que vraiment un sentiment où les gens demandaient. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'une certaine façon, oui, on a été, je dirais, presque aidés par le fait qu'il y a eu finalement assez peu de rébellion. Sur la question des soignants qui ont été comme ça orientés par la nécessité d'ouvrir pour réhumaniser ce qui était en train de se faire, je suis un peu plus nuancée, puisque voilà, il y a eu beaucoup de résistance aussi de la part des soignants, beaucoup de résistance pour des raisons notamment du côté de l'angoisse, de l'angoisse d'être contaminé par les proches, de l'angoisse de ne pas avoir assez de matériel.
Et aussi, je pense, de l'angoisse que... parce que ces contaminations se multipliaient. Mmh. On ouvrait des unités toutes les 48 heures. Et du coup, je pense que, en tout cas, du côté des soignants, médecins, surtout, je pense, il y avait cette crainte qu'en fait, on fait rentrer les gens. S'ils se contaminent, où est-ce qu'on va les mettre? Il n'y a plus de place.
Et puis, parce que voilà, quand on est dans une institution qui fonctionne avec des règles, on sait qu'il y a un mouvement de l'institution qui fait qu'on va quand même en général vers plus de règles et parfois vers le fait d'appliquer les règles encore plus qu'il ne faudrait les appliquer. L'hôpital à ce moment-là n'a pas fait exception. Et donc les soignants voilà, sont comme tout le monde et donc sont et traversés par des mouvements d'accueil, de soins et sont aussi traversés par des mouvements de restriction et de faire usage du pouvoir qui leur est donné.
Comme le bête qui tourne. Ticket. Rendez-vous. Ensemble. Ça, c'est pour belle.
Je demande à colocation.
Yes, voilà.
Étage doué.
Oui.
Doué.
Et si vous avez trop mal, urgence. Non, urgence.
Donc ça m'est arrivé d'accompagner des proches pour voir leur voilà, ceux qu'ils aimaient décédés en réanimation. Il y avait aussi l'idée de vérifier qu'ils sachent bien comment mettre les équipements de protection. Et il y a des gens qui allaient vers leurs proches pour faire une dernière caresse, pour même dans des moments de désespoir, enlacer le corps de la personne décédée. Comment on intervient à ce moment-là pour empêcher ça? Et donc, on est face à un dilemme qui est un dilemme terrible. C'est-à-dire, est-ce que en tant que soignant, on intervient pour laisser... Et en plus, moi, dans ces moments-là, je suis presque soignante avant d'être psy, mais évidemment que je suis toujours psy. Et au nom de quoi je peux me permettre de dire quelque chose d'une femme qui embrasse son fils avant qu'il soit emmené et où elle pourra plus le revoir. Et en même temps, on a en tête le fait à ce moment-là qu'il y a des familles où il y a plusieurs personnes qui viennent en réanimation. Donc on sait aussi que la contagiosité, elle a des effets où les gens en meurent. Donc en fait, on est là effectivement face à un dilemme qui est un dilemme absolument terrible. C'est-à-dire comment venir incarner des règles qu'on savait être des règles maltraitantes. Maltraitantes à certains endroits et en même temps, à ce moment-là, il semblait qu'elles étaient indispensables pour protéger le plus grand nombre. Mais voilà, de dire que seules deux personnes pouvaient rentrer, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Deux personnes dans une famille, c'est qui? Comment on choisit? C'est la mère, c'est les deux enfants. Quand il y a des familles de cinq enfants, qui vient?
Et justement, face à ce genre de questions de choix, comment vous avez-vous agi? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour appliquer cette question-là du choix, par exemple, des deux personnes?
J'ai essayé de faire en sorte que jamais quelqu'un de la famille n'ait à porter cette responsabilité face au reste de la famille. Voilà. Je vais venir expliquer que c'est l'hôpital qui impose ça pour que jamais ceux qui rentraient aient à être identifiés comme ceux qui faisaient les restrictions. Donc je me rappelle être sortie de l'hôpital pour aller expliquer à une famille... pour pas que ce soit un jeune, voilà, il y avait un jeune de 25 ans qui était auprès de son père et toute la famille attendait dehors et donc je lui ai proposé de l'accompagner, que ce soit l'institution qui explique les restrictions, pas le proche.
On pose un cadre et après, surtout quand ça va dans le sens d'un assouplissement en lien avec un contexte beaucoup plus favorable sur la pandémie, il n'y a rien à faire de notre côté. On laisse faire, évidemment. Donc, oui, enfin, une transgression. Moi, j'aurais... Enfin, ce qu'on a beaucoup eu, c'était plutôt dans l'autre sens. Il y a eu de grands débats, en fait. On allait même parfois dans les services pour voir avec eux pourquoi ils voulaient limiter plus les visites. C'était beaucoup dans l'autre sens. Dans le sens de l'assouplissement, pour moi, c'est très positif. Hein. Je veux dire, c'est une transgression qui dérange absolument pas, quoi. Je pense que on a fait notre travail de réflexion éthique. C'est une dynamique, l'éthique. On n'a pas cessé de se poser des questions. A posteriori, bien sûr qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment. Mais bon, ça, on peut pas refaire l'histoire. Est-ce que c'était des bonnes décisions? Non, je pense pas que c'était des bonnes décisions, je dirais pas ça. Je dirais que c'était les meilleures décisions qu'on pouvait prendre sur le moment. En tout cas, on l'a pas fait dans notre coin et on a le souci d'avoir quelque chose qui s'applique vraiment en pratique. Parce que si on s'était dit on ouvre les visites à tout le monde, c'est exactement la même chose que de se dire on ferme tout. On ouvre tout. On ouvre tout, alors les rites peuvent se faire. Il n'y a quasiment pas de précautions à prendre sur les personnes décédées. Oui, ça c'est très facile aussi. Sauf qu'en fait, en pratique, personne n'aurait respecté. Si n'y a pas de discussion, si on ne vérifie pas que sur le terrain c'est faisable, bah, ça ne sert à rien.
Bonjour.
Moi, il me semble que finalement, ce qui a été vraiment difficile dans cette période, c'est que pour les soignants, on était forcément dans la transgression. et la transgression, c'est jamais une position simple. Soit on transgressait les règles qu'on nous imposait à ce moment-là, soit on transgressait les règles éthiques fondamentales de ce que c'est que le rapport à un être humain quand il est en train d'en perdre un autre. Et qu'est-ce qui fait société? Qu'est-ce qui fait culture? Qu'est-ce qui fait lien social? On a laissé rentrer les proches, pas assez. On a fait des restrictions. Mais bon, les personnes qui ont fini leur vie en réa et qui n'ont pas vu de proches ou qui n'ont pas été en lien avec des proches, il y en a eu peu. C'est toujours quelques-unes de trop, pour moi.
La traversée, épisode 4, transgressée. Avec la musique originale de Pierre Chaffanjon.
Prise de son et écriture, Sarah Lefebvre.
Réalisation et mixage, Brice Andlauer.